Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'émission de Tech News, le média lycéen en direct du lycée Émile Peytavin. Au programme de cette première édition sera présentée l'interview des bénévoles de SOS Méditerranée. Vous allez tout savoir sur la route migratoire méditerranéenne. Une chronique de Loïc portant sur sa passion, le vélo. Il vous expliquera tout sur les vélos. L'interview du nouveau proviseur Monsieur Colli pour connaître un peu mieux notre chef d'établissement. Et une chronique de Lisa et Aurélie sur les associations sportives du lycée. Alors plongez au cœur de la vie sportive du lycée Émile Peytavin. C'est dans son second mois de fonction au sein du lycée que nos reporters ont décidé d'interviewer notre nouveau proviseur. Sa fonction, son quotidien, son parcours et ses passions. Apprenez-en un peu plus sur notre nouveau chef d'établissement.
Bonjour Monsieur Colli. Aujourd'hui, en tant que reporter pour Tech News, on vient vous interviewer pour en savoir un peu plus sur vous et pour que les élèves connaissent un peu mieux leur nouveau proviseur. Pour commencer simplement, quel est votre rôle au sein du lycée ?
Mon rôle au sein du lycée, c'est de poser le cadre pour faire en sorte que les apprentissages des élèves se passent du mieux possible pour assurer la réussite des élèves. C'est le premier objectif. Et après, ça passe par forcément la mise en place d'un cadre, d'un climat scolaire favorable et serein pour faire en sorte que les élèves évoluent au sein d'un établissement confortable, plaisant et que la relation avec les enseignants se passe pour le mieux. C'est les conditions posées pour assurer une réussite des élèves et faire en sorte que, effectivement, les apprentissages passent pour le mieux.
Et donc, quelles sont vos responsabilités ?
Responsabilité, c'est organisationnel, avant tout, assurer une rentrée, assurer les examens, assurer, comme je vous l'ai dit, les apprentissages. C'est assurer la sécurité et la santé au sein de l'établissement, c'est une responsabilité. Je suis responsable de la sécurité des biens et des personnes au sein de l'établissement, donc les responsabilités sont multiples.
Comment vous situez-vous hiérarchiquement au sein du lycée ?
Eh bien, je suis le chef d'établissement, donc je suis le supérieur des personnels d'État, puisque je suis chef d'établissement. Je suis responsable d'eux, de leur organisation de leur emploi du temps. Les agents de la région, je suis l'autorité fonctionnelle, c'est-à-dire que leur chef, leur autorité directe, c'est la région. Et sur le fonctionnement, c'est moi le responsable avec mes équipes, bien sûr, parce que le chef ne travaille jamais seul, mais le responsable, c'est le chef d'établissement.
Pour continuer, quel est votre parcours ? Comment êtes-vous devenu proviseur ?
Alors moi, je fais un bac G2, donc comptabilité. Je voulais rentrer dans la police. Au début, je voulais avoir une licence pour passer le concours de commissaire de police. Et puis, j'ai été surveillant pour payer mes études, parce que les études, c'est jamais gratuit. Donc, j'étais surveillant à l'époque, maître d'internat et surveillant d'externat. Et petit à petit, j'ai mis un pied dans l'éducation nationale. J'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc, pendant une dizaine d'années, j'étais instituteur, professeur des écoles et directeur d'école. Et en 2010, j'ai passé le concours de personnel de direction. J'ai débuté dans les Ardennes, au lycée François Bazin. Et après, j'ai fait deux collèges dans le Cantal et avant d'arriver ici. Et j'ai oublié le parcours précédemment. J'ai fait un peu d'économie, j'ai fait du droit, une licence, et après je suis parti en maîtrise de sciences politiques, et après j'ai fait un DESS d'administration publique. Voilà. Donc un cursus est essentiellement tourné vers le droit public.
Avez-vous fait le choix de cet établissement qui accueille des formations générales, technologiques, professionnelles et post-bac ?
Alors pour moi c'était un choix important, le fait de pouvoir revenir sur un lycée polyvalent. J'ai débuté dans un lycée polyvalent. Pour moi un lycée polyvalent c'est une richesse, il y a des publics variés, divers, des équipes variées aussi, donc les équipes d'enseignants, des équipes, des partenariats multiples, et en cela c'est une richesse. Donc effectivement c'est le souhait le plus cher, si je puis dire, qui s'est réalisé en venant au lycée Peytavin.
En êtes-vous satisfait ?
Tout à fait. Très bien, c'est ce que je ne pouvais pas espérer avoir mieux. Le cadre, la Lozère est un département rural magnifique que le genre de département que j'affectionne, puisque j'ai fait 23 ans dans le Cantal. Donc forcément, la Lozère, ça correspond vraiment à mon idéal de vie familiale et professionnelle.
Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type en tant que proviseur ?
Alors, des journées types, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que vous répondez, bah, comme je vous l'ai dit, on a des responsabilités multiples, on est sollicité de l'extérieur, on est sollicité de l'intérieur, hein, par des événements, hein, des fois de vie scolaire, la gestion du quotidien, donc les journées types. Si on prend une journée type, c'est effectivement on fait l'accueil des élèves de 8h à partir de 8h moins le quart, 7h30, 8h moins le quart. On a un travail administratif, effectivement, on répond aux mails, on signe des documents administratifs, on organise les réunions, les concertations entre les collègues, avec les partenaires extérieurs, et on planifie, hein, également, hein, puisque un chef d'établissement, c'est aussi un pilote, hein, donc on essaye de donner les lignes de conduite et on essaye d'amener le beau navire lycée là où il doit aller. Voilà. Donc les journées, comme on dit souvent dans la profession, sont très chronophages. Hein. On peut finir à minuit, on peut finir à 9h, à 10h du soir, ou à 23h, ou à 1h du matin. Enfin, voilà, le tout, c'est que le travail soit réalisé.
Nous avons vu que vous êtes sapeur-pompier volontaire. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager ?
Ben, c'est un peu logique, en fin de compte, parce que être fonctionnaire de l'État, c'est avoir un sens du service public, être au service des autres. Et ça m'est arrivé tardivement. Hein. C'est au cours de mon premier poste en collège, il y avait une section jeunes sapeurs-pompiers. Donc je les encadrais, je donnais un coup de main à l'encadrement les week-ends. Mon premier engagement, c'était ça. Et petit à petit, les formateurs GSP m'ont proposé de passer les épreuves pour devenir sapeur-pompier volontaire. Donc à 47 ans, je suis devenu pompier volontaire. Donc je suis un jeune vieux sapeur-pompier volontaire. Donc voilà, alors j'exerce pas encore en Lozère, mais j'exerce donc à Saint-Flour. Donc par exemple, là je peux vous le dire, hein, quand je suis de garde, alors je fais mes journées de proviseur ici, et le soir à 18h je pars d'ici. J'arrive à Saint-Flour à 19h, je prends ma garde jusqu'à 7h du matin, et je reprends ma voiture, et je suis ici à 8h. Voilà. Et je conduis les camions. Je suis formé.
Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre par le biais de votre métier ?
Ben, déjà, c'est l'ambition. Je l'ai dit à des élèves il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, je suis content de mon parcours, fier aussi, hein, parce que là, on dit toujours bac G. J'ai réussi à faire des études de droit, j'ai réussi à faire une maîtrise de sciences politiques. Je suis proviseur, donc vous voyez, l'ambition, on peut l'avoir avec n'importe quel bac. Le tout, c'est d'avoir la volonté, la niaque. Travailler ensemble, c'est une force, et cette force-là, je vais la transmettre aux autres. L'envie de travailler ensemble, l'envie de travailler ensemble, on la cultive de par le travail, par mon métier, mais aussi par mon engagement sapeur-pompier. Travailler en équipe, c'est primordial, et au sein d'un établissement, il faut travailler en équipe.
Avez-vous un autre hobby que vous pouvez pratiquer en Lozère ?
Avant d'arriver ici, je connaissais un peu la Lozère, puisque je suis motard. Je roule en moto, donc j'aime bien découvrir des paysages. Donc j'aime bien manger du macadam, comme on dit, sur les routes de Lozère, du Cantal. Donc voilà, donc ça fait quelques années que je circule sur les routes lozériennes. Mais je suis pas un fan d'autoroute, mais je suis un fan des petites routes. Donc ça, c'est mon petit plaisir, c'est la moto.
BMW ou Yamaha ?
Vous avez déjà des informations ? Alors j'ai commencé Yamaha, j'ai eu beaucoup de Yamaha et maintenant je suis BMW forcément. C'est une moto de vieux.
Eh bien, merci de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Merci de nous soutenir, de soutenir nos projets. Et pour finir, nous tenions à vous dire que nous sommes particulièrement sensibles au soin que vous portez à votre tenue vestimentaire.
Merci, c'est gentil à vous, merci à vous. Nous, notre grande satisfaction, c'est les élèves qui nous le donnent, hein, c'est pas les salaires, c'est les élèves qui nous donnent l'envie de venir tous les jours travailler avec le plaisir, avec la bonne humeur. Donc peut-être qu'à travers ma tenue vestimentaire, je vous exprime ma bonne humeur, mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir de travailler avec les élèves, et ça fait 32 ans que je le fais, et je continuerai de le faire toujours avec plaisir. Merci à vous, et un grand merci pour votre engagement. Merci.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Sa passion, c'est le vélo, et il va vous en parler. Loïc va vous présenter tout type de vélo, leurs spécificités, leur terrain, et je le laisse vous en dire plus.
Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des vélos. Mais pas simplement des vélos, mais de tous les types de vélos. Pour commencer, il faut savoir que le tout premier vélo date de 1817 et il était en bois. Nous verrons ici que les matériaux sont bien différents désormais. Commençons par les vélos qui ont la forme des vélos de route, que vous pouvez voir autour de France avec papy au mois de juillet. On en dénombre à peu près 5 et je vais vous les décrire tout de suite. D'abord, le vélo de triathlon, qui comme son nom l'indique, est fait pour l'épreuve du triathlon, à savoir un enchaînement de 3 sports, natation, course à pied et cyclisme. Ce vélo a l'allure d'un vélo de route avec un support au centre du guidon pour poser les bras. Il est généralement en carbone, comme les vélos que vous allez voir par la suite. Deuxièmement, nous avons le gravel, un vélo qui est fait non seulement pour rouler sur la route, mais aussi sur des petits chemins de terre grâce à ses pneus légèrement cramponnés. Nous continuons avec le cyclo-cross, qui est une discipline d'automne et d'hiver, dans des chemins, des prairies, de la boue, du sable, etc. Et pourtant, les vélos et les tenues sont pratiquement les mêmes que celles du cycliste de route. Ensuite, les fixies, qui eux, ont une particularité. Il n'y a pas de corde roue libre, c'est-à-dire que si vous bloquez les pédales, la roue arrière se bloque. Donc c'est un vélo qui est assez dangereux, puisqu'en plus, il ne possède pas de frein, et pas non plus de dérailleur. Autrement dit, pas de vitesse. On les voit souvent en ville, utilisés par des personnes qui vont au travail avec. Il y a aussi une branche freestyle qui est apparue avec ce vélo. Et enfin, le vélo de route, le basique, une position aérodynamique, des pédales automatiques, des freins à disque ou à câble, etc. On fait une transition et on passe maintenant à la crème de la crème, le VTT. Un VTT possède forcément ce qu'on appelle une fourche télescopique, autrement dit une fourche qui peut amortir, ce qui va permettre un certain confort dans les terrains accidentés. On commence avec le cross-country, aussi appelé XC. C'est un vélo semi-rigide, c'est-à-dire que seule la fourche est « suspendue » entre guillemets. Elle se pratique sur tous les terrains et c'est la discipline la plus répandue du VTT. On continue avec le all-mountain et l'enduro, qui eux possèdent un amortisseur. C'est une suspension à l'arrière qui permet plus de confort sur les terrains accidentés. Le all-mountain est un peu le cross-country des adultes qui ne veulent pas se faire mal au dos, tandis que l'enduro possède un peu plus de débattement et permet de faire plus de descentes engagées tout en pouvant monter. Une variante est apparue en 1995 et ne fait que d'évoluer. Ce sont les VTT à assistance électrique, généralement utilisés par des adultes car ils permettent à des personnes de faire du VTT sans une exigence physique particulière. C'est aussi une opportunité pour les pilotes blessés de pouvoir continuer le VTT grâce à cette assistance. Un autre type de vélo un peu particulier, c'est le fat bike. Ici, pas de fourche télescopique, mais l'absorption des chocs se fait par les pneus qui font 3 à 4 fois plus larges que des pneus de VTT normaux. Ils sont souvent utilisés dans la neige et le sable car la largeur des pneus permet une meilleure stabilité dans ces terrains meubles. Nous passons ensuite à la crème de la crème, considérée comme le sport le plus dangereux du vélo, la DH, downhill en anglais, signifiant descente de montagne, consiste à descendre une piste qui a été préalablement construite pour cette discipline, sur laquelle a été créé des sauts pouvant aller jusqu'à 20 mètres de long et des rochers de 2 mètres de haut. Les vélos ont des allures de motocross avec leur fourche qui monte jusqu'au guidon et le gros amortisseur présent à l'arrière pour amortir tous les chocs. Ici, les protections sont primordiales. À part les bottes, les protections sont les mêmes qu'en motocross. On continue avec un vélo beaucoup plus gringalet, mais qui saute aussi haut, le dirt. Un peu plus grand qu'un BMX, il possède une fourche télescopique, avec une seule vitesse, et cette pratique consiste à faire des sauts en faisant des figures, des backflips, des frontflips, etc. Un autre vélo un peu particulier, le trial. Pourquoi particulier ? Parce qu'il n'a pas de selle et une seule vitesse. Le but est de franchir des obstacles en étant debout sur les pédales. C'est une discipline technique. On change de type de vélo et on passe au BMX. Un petit vélo avec des pneus lisses, une selle basse, une seule vitesse et un guidon atypique en forme de V. On en compte 4 différents. Les deux plus connus sont le BMX Street et le BMX Park. Comme leur nom l'indique, l'un se pratique dans la rue et l'autre dans un skatepark. Le but de cette discipline est de faire des figures plus différentes les unes que les autres. Le troisième type de BMX, c'est le BMX Race, dans cette discipline se déroulant sur une piste de 360 mètres, agrémentée de sauts, de bosses, de virages relevés, où le but est d'être le plus rapide parmi 8 concurrents qui roulent en même temps. Enfin, un BMX avec lequel les possibilités artistiques sont nombreuses, le BMX flat. Comme son nom l'indique, la pratique se déroule au sol, sur une surface plate, et le pilote est autant sur les pédales que sur ce qu'on appelle les pegs. Je vous laisse chercher pour voir ce qu'il en est. Et voilà, c'est déjà fini. On pourrait bien sûr parler des vélos plus communs, comme le vélo que mamie a dans son garage ou que ta petite sœur utilise pour jouer en bas de la rue, mais c'était connu pour vous, et si vous êtes encore là, c'est parce que vous vouliez en apprendre plus. Si vous aimez le vélo, vous pouvez me suivre mes aventures sur ma chaîne YouTube, Lolo Fairo. C'était Loïc Ferronnière.
Merci Loïc pour toutes ces informations sur nos beaux vélos, et on lance tout de suite une pause musicale avec les tendances du moment, Orange Sun, l'odeur de l'essence.
Faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie dit tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement de taf de merde, fait semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
C'est l'événement du moment dans le lycée. L'exposition mise en place par l'association SOS Méditerranée occupe la cour du lycée et sensibilise au quotidien des centaines de personnes au drame humanitaire qui se joue en Méditerranée. L'équipe de reporters Tech News a décidé d'interviewer un bénévole, Jean-Pierre Lacan. Il vous explique tout sur l'association, son fonctionnement, la Méditerranée, ses dangers, et il tord le cou à certaines idées reçues.
SOS Méditerranée, c'est une association de sauvetage en mer. Donc nous sommes des sauveteurs en mer, des sauveteurs et ceux qui les aidons aussi. Elle fait, comme son nom l'indique, du sauvetage en mer. Ça veut dire qu'elle intervient avec un bateau, un gros bâtiment qui fait 70 mètres de long, qui s'appelle l'Océan Viking. Elle intervient dans une partie très très dangereuse de la Méditerranée centrale, qui se trouve entre les côtes de Libye au sud et de Tunisie, et au nord, entre les premières côtes européennes, qui sont les côtes d'Italie, et les côtes de l'État de Malte, de l'île de Malte. Donc dans cette zone qui s'appelle la Méditerranée centrale, on a là la route migratoire la plus dangereuse du monde. Elle est empruntée par des gens qui fuient leur pays pour des tas de raisons, la guerre, les violences, la pauvreté extrême, et qui, ne pouvant pas accéder normalement, de manière légale, avec des visas au territoire européen, empruntent des routes clandestines, de migration clandestine, extrêmement dangereuses. Donc traversée de la Méditerranée, depuis la Libye jusqu'aux premières côtes européennes, c'est 300-400 kilomètres de mer, et c'est extrêmement dangereux. C'est là que se trouve la route migratoire la plus dangereuse du monde. C'est là qu'il y a le plus de morts sur les routes migratoires dans le monde. C'est celle-là qui est la plus dangereuse. Et nous, on fait du sauvetage là parce qu'on considère qu'il faut arrêter le massacre, quoi. La Méditerranée, à cet endroit-là, est devenue une sorte de fosse où les vies s'abîment, disparaissent corps et biens. Donc s'il n'y a personne pour sauver ces gens-là, eh ben, ils meurent. Voilà. Donc on fait du sauvetage très concrètement.
Merci. SOS Méditerranée, du coup, est-elle la seule ONG à faire des sauvetages en mer ?
Non, absolument pas. On a à peu près aujourd'hui une petite dizaine d'ONG qui font du sauvetage en mer dans cette partie-là de la Méditerranée, qui sont des ONG allemandes pour certaines, italiennes pour d'autres et espagnoles.
Et donc pourquoi l'Union européenne a mis fin à ses activités navales de sauvetage et de surveillance des côtes en 2019 ? Et quelles ont été les conséquences ?
Oui, alors ça s'est fait en plusieurs temps. Là, vous parlez de 2019, donc c'est l'arrêt des opérations d'une force navale qu'on a appelée Sophia en 2019, mais on a aussi arrêté un peu avant, c'était en fin 2014, une opération de sauvetage qu'avait mis en place l'État italien et qui s'appelait Mare Nostrum. Et pourquoi chaque fois on a mis un coup d'arrêt à ces opérations de sauvetage? Alors Mare Nostrum, c'était vraiment du sauvetage, sa mission. L'autre, Sophia, il n'y avait pas que du sauvetage, c'était du contrôle. On essayait d'arrêter les réseaux de trafiquants d'êtres humains. C'était ça. Et il faisait du sauvetage parce que tout capitaine de navire qui est mis en présence d'un naufrage doit aller porter secours. Mais bon, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce que certains en Europe ont dit, mais en mettant des navires de sauvetage sur les routes migratoires-là, vous aspirez les migrations, vous les provoquez, vous incitez les gens à partir. Donc, vous êtes à l'origine des naufrages. C'est à peu près la même chose que si vous disiez, vous voyez, l'ambulance qu'on envoie sur un accident, eh ben, elle va provoquer d'autres accidents parce que les gens vont pouvoir se laisser aller à la conduite, sachant qu'ils vont être sauvés. Enfin, c'est à peu près ce même type de raisonnement, vous voyez, que c'est quand même un peu tordu. Mais on a arrêté sous ce prétexte-là. Alors, la question qu'il faut se poser tout de suite après, c'est est-ce que ça a contribué à arrêter les migrations par la mer et en tout cas les naufrages? Mais pas du tout. On va prendre un simple exemple. L'opération Mare Nostrum, 150 000 vies sauvées entre 2013 et 2014 par l'Italie, hein, par des bateaux officiels de l'Italie. On l'arrête en novembre 2014 et les plus terribles naufrages en Méditerranée, c'est en avril 2015, au moment de Pâques, en 2015, où vous avez là, sur un naufrage, un millier de victimes. Un seul naufrage, un millier de victimes. Voyez ? Et en 2015, il n'y avait quasiment personne pour faire du sauvetage. Donc cette théorie dite de l'appel d'air, qui fait qu'on arrête, on supprime les bateaux de sauvetage sous prétexte qu'ils provoqueraient des naufrages. Cette théorie de l'appel d'air, elle ne tient pas du tout.
Merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez qu'un seul bateau, l'Ocean Viking, qui a pris le relais de l'Aquarius. Pouvez-vous nous parler de l'équipage qui embarque, pour quelle mission?
Oui, d'abord, il y a plusieurs, parties dans l'équipage. Il y a une première partie qui est constituée de marins professionnels dont la mission est de faire avancer le navire. Alors, vous avez des mécaniciens, vous avez des hommes de quart, des hommes qui sont à la barre, qui assurent la conduite du navire. Cette partie-là, qui est constituée de 11 marins à peu près, ce sont des marins qui sont embauchés par l'armateur, c'est-à-dire le propriétaire du navire. Nous ne sommes pas propriétaires, on est simplement affréteurs du navire. Donc nous apportons les deux autres parties de l'équipage. Une première partie qui est constituée de marins sauveteurs. Ça, ce sont des marins qui ont été spécialement formés pour faire du sauvetage, entre guillemets, de masse. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller sur des embarcations qui transportent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de naufragés, et qui vont pouvoir les prendre en charge en toute sécurité. Donc ils sont eux aussi à peu près une dizaine, 10, 11. Et il y a enfin une troisième partie que nous, coordonnons avec un partenaire, je vais vous dire lequel dans un instant, c'est les gens qui font l'accueil à bord. La prise en charge médicale, sanitaire, médicale, nous avons des médecins, sages-femmes, infirmiers, et cette partie-là, aujourd'hui, est au nombre de 5-6 personnes à peu près. Et là, nous avons un partenariat avec une fédération d'associations bien connue dans le monde, qui est la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est la Croix-Rouge aujourd'hui qui est notre partenaire médical à bord de l'Océan Viking.
Et ce bateau citoyen fonctionne-t-il tous les jours de l'année?
Alors, il fonctionne, il est prévu effectivement pour être opérationnel le plus souvent possible. Alors, il faut savoir qu'un navire a des obligations administratives de contrôle périodique, donc qui l'oblige à faire relâche dans des ports et à être contrôlé par des contrôleurs officiels. Donc, ça vient en déduction du temps passé en opération. Et il y a aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé malheureusement, cette fameuse crise sanitaire du Covid qui fait que lorsque nous avons procédé à un naufrage et que nous avons débarqué les naufragés dans un port sûr et qu'ils ont été confiés aux autorités du pays de ce port, eh bien nous sommes contraints de respecter une période de quarantaine, donc qui est une 10 jours, où on se met en dehors au mouillage, donc au large, et on attend 10 jours après avoir désinfecté totalement le navire pour repartir ensuite en mer. Donc tout ça réduit un peu notre temps opérationnel. Mais on est prévu pour rester le plus longtemps possible, hiver comme été, beau temps comme mauvais temps en mer. C'est un navire qui est taillé pour ça.
Merci. On a vu qu'il faut environ 11 000 euros par jour pour que le bateau navigue. D'où vient l'argent qui permet à votre association de fonctionner et comment faire pour vous aider?
Alors écoutez, je vais vous corriger un peu votre chiffre. 11 000 euros, c'était autant de l'Aquarius. L'Aquarius était un navire qui coûtait moins cher que l'Océan Viking aujourd'hui. L'Océan Viking est beaucoup plus performant. C'est un navire qui va plus vite, qui a tous les équipements, beaucoup plus d'équipements qu'en avait l'Aquarius. Et aujourd'hui, c'est 14 000 euros. Le coût opérationnel de l'Océan Viking, c'est 14 000 euros. Alors comment on se le procure? Eh bien, grâce à la mobilisation citoyenne, vous voyez. Ce que nous faisons là, aujourd'hui à Mende, cette exposition, ça ne va pas nous rapporter directement de l'argent, mais ça permet de sensibiliser l'opinion à la nécessité d'aller sauver des gens en Méditerranée. Et cette opinion, ensuite, elle est encline à nous aider, à nous soutenir. Il faut savoir que 90% de notre budget, vient c'est de l'argent privé, mais du bon argent privé. Il y a beaucoup de dons là-dessus, beaucoup de dons des particuliers qui constituent ces 90%, mais aussi des dons d'associations, de fondations et un peu, très peu, d'entreprises. Et on arrive à un total donc de 90% du budget de SOS Méditerranée qui est ainsi constitué. Et après, on a 10%. Alors vous allez me dire, d'où viennent-ils ces 10% qui manquent pour arriver à 100%? Eh bien, ils viennent de subventions publiques, c'est vrai, mais pas du tout de subventions d'État. On ne touche pas un centime d'un État, quel qu'il soit, français, allemand, etc. Pas un centime d'un État. Ce sont les collectivités territoriales qui nous soutiennent. Et je voudrais dire qu'ici, à Mende, donc en Occitanie, la région Occitanie nous soutient beaucoup. Et notamment cette exposition que vous avez la chance d'accueillir ici au lycée Pétavin, cette exposition a été financée pour partie dans le cadre du budget participatif de la région. La région Occitanie et sa présidente Carole Delga, c'est historiquement l'un de nos partenaires historiques à SOS Méditerranée, avec la ville de Paris, avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec la région Bretagne, avec la ville de Montpellier aussi qui nous soutient, et bien d'autres collectivités locales. Aujourd'hui, nous avons environ 70 collectivités locales de toute taille qui soutiennent SOS Méditerranée.
Vous l'avez dit précédemment, la Méditerranée est la mer la plus mortelle au monde. Avez-vous des chiffres à nous donner? Et combien de personnes sauvez-vous en moyenne sur une année?
Oui, alors, effectivement, ces chiffres, d'où ils viennent? Ils viennent d'une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale pour les migrations. C'est une agence des Nations Unies. C'est une qui constitue depuis 2014 une statistique. On n'est pas allé compter, elle n'a pas les moyens, parce que la plupart du temps, les corps disparaissent en Méditerranée, ils coulent, ils disparaissent sans laisser de traces. Donc c'est sur la base d'enquête que repose cette statistique. Mais c'est aujourd'hui la statistique qui fait référence. Il faut la prendre avec précaution, elle ne recouvre peut-être pas l'entièreté de la réalité. Mais aujourd'hui, l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, estime à plus de 22 000 morts et disparus en Méditerranée, depuis 2014, ce désastre humanitaire. Plus de 22 000, quasiment 23 000, à ce jour, depuis 2014. C'est inacceptable. Là, on parle de l'ensemble des routes migratoires de la Méditerranée. Les trois grandes routes, la route occidentale par le détroit de Gibraltar, la route centrale que je vous ai décrite, donc à travers de la Libye vers l'Europe, et la route orientale, donc qui vient de la Turquie et vers les îles grecques. Ça, c'est le total, près de 23 000. Et sur la seule partie centrale de la Méditerranée, on est à plus de 18 000 morts depuis 2014. Voilà. Nous, c'est ce qui nous mobilise. On considère que c'est un drame humanitaire épouvantable et que face à ce drame, on se doit, nous autres citoyens, de réagir. Alors après, vous me dites, je ne sais plus la question, c'est combien de sauvetages vous faites chaque année. On ne va pas calculer par année, hein, mais je vais vous donner un chiffre global. Depuis que nous sommes en opération, depuis la première opération, on l'a fait au mois de mars 2016, avec évidemment l'Aquarius. Jusqu'à aujourd'hui, donc, avec l'océan Viking, on est à plus de 33 000 personnes sauvées par SOS Méditerranée.
Merci. Et pour sauver ces personnes, pouvez-vous aller partout dans la Méditerranée? Ou y a-t-il des pays qui n'acceptent pas que vous rentrez dans leurs eaux territoriales? Certains pays refusent-ils que votre bateau accoste dans leur port?
Alors d'abord, comme je vous l'ai précisé, notre zone d'opération, c'est la Méditerranée centrale. Donc je vous la resitue. On est entre les côtes de Libye, au sud, et un peu de Tunisie, et au nord, les premières côtes européennes, qui sont les côtes de l'île de Malte et les côtes d'Italie. Nous n'intervenons que dans les eaux internationales. On ne rentre pas dans les eaux territoriales où là, on serait en lien direct avec l'État qui contrôle ces eaux territoriales. Donc on ne rentre pas dans les eaux territoriales libyennes. On ne peut pas. La Libye ne nous accepterait pas. Mais on reste dans les eaux internationales où la liberté de navigation est entière. C'est notre droit le plus strict d'aller naviguer dans les eaux internationales. La navigation est ouverte à tout le monde. D'accord ? Donc on intervient là, dans ces eaux-là. Notre grande difficulté, c'est que dans ces eaux internationales, ce sont des conventions internationales qui disent le droit, qui établissent le droit maritime. C'est des conventions internationales. Ce n'est pas le droit des États. Ce sont des conventions internationales qui ont été signées par la plupart des États du monde. Et ce sont ces conventions qui organisent le sauvetage, pour ne pas laisser ces zones en déshérence. Comment on fait pour aller sauver des gens? Comment on s'organise? À qui on s'adresse? Quelle est l'autorité compétente? Etc. Ça, ce sont les conventions maritimes internationales qui le disent. Et elles disent quoi? Elles disent que les eaux internationales des mers et des océans du monde sont divisées en zones de recherche et de sauvetage, que chacune de ces zones de recherche et de sauvetage est confiée à la responsabilité d'un État riverain, d'un État côtier, que cet État côtier a une obligation de moyens opérationnels, pour coordonner les sauvetages, des radios, des moyens de transmission, des moyens électroniques, etc. Et c'est à cette autorité que le navire qui est amené à faire du sauvetage en réfère, d'accord ? Et cette autorité, elle a pour obligation de coordonner le sauvetage, mais ensuite d'indiquer un port de destination pour aller débarquer le naufragé. Et les textes législatifs, les conventions, disent que ce port doit être un port sûr, c'est-à-dire situé dans un état où la personne débarquée va pouvoir faire valoir ses droits, va pouvoir demander la protection de l'État, va pouvoir se faire soigner, organiser son rapatriement, mais surtout se placer sous la protection de l'État si elle a besoin d'être protégée. Elle peut demander le statut de droit d'asile à cet État. Voilà. Il est hors de question, donc, pour un navire sauveteur, pour l'océan Viking, d'aller débarquer les naufragés en Libye où les droits des naufragés ne seraient pas respectés. En Libye, on les renvoie directement dans les prisons. On les renvoie directement entre les mains des trafiquants qui les ont exploités. Donc pour nous, hors de question d'aller en Libye. Les seuls ports sûrs dans cette zone-là, ce sont des ports européens, italiens ou maltais.
Et vu que vous n'avez qu'un seul bateau, comment sont repérées les embarcations et qui vous appelle pour aller chercher les migrants en mer ?
Excellente question. En fait, on a plusieurs moyens. On a d'abord des moyens qui sont à nous, donc nos yeux et donc les jumelles de visée nocturne pour certaines. L'océan Viking est un bateau qui est très haut sur l'eau. Il a une passerelle très ouverte à 360 degrés. Donc, on a une bonne visibilité depuis la passerelle de l'océan Viking. Et donc, dès que nous arrivons dans la zone des naufrages, nous organisons un tour de veille sur la passerelle de l'océan Viking. On repère comme ça pas mal de naufrages directement. Mais nous avons ensuite une plateforme qui est coordonnée par une ONG, qui a été créée par une ONG, qui s'appelle Alarm Phone. Donc c'est une plateforme d'écoute téléphonique. Il y a un numéro, une hotline, une ligne directe. Et les bénévoles de cette plateforme, de cette ONG, distribuent, font circuler ce numéro dans tous les milieux où peut y avoir des migrants. Et ce numéro, il se transmet de bouche à oreille par les migrants qui sont censés partir en mer. Et donc, quand une embarcation se retrouve en difficulté au large, les personnes à bord appellent cette hotline. Cette hotline, elle fait tout ce que font les ONG, c'est-à-dire qu'elle prévient les autorités libyennes coordonnatrices des sauvetages dans la zone, mais aussi, pour copie, elle transmet l'information à tous les moyens nautiques de sauvetage présents sur la zone, dont les navires des ONG. Hein. Et avec les positions donc qui sont données par les coordonnées GPS des téléphones portables qu'embarquent qu'ont les migrants à bord. Donc ça aussi c'est un second moyen important pour détecter les naufrages. Et puis il y en a un troisième, ce sont les moyens aériens. Il se trouve que deux ONG, une ONG allemande, et qui a deux avions, et une ONG française qui a un avion, petite ONG française, mais formidable ONG, qui s'appelle Pilote Volontaire. Ils ont un petit avion, un bimoteur, qui s'appelle Colibri 2, qui opère depuis l'île italienne de Lampedusa, qui est en permanence en l'air, en train de surveiller la zone des naufrages. Et lorsque elle repère une embarcation en difficulté, elle fait la même chose qu'Alarm Phone. Elle transmet l'information à l'autorité coordinatrice libyenne, puisque c'est donc elle qui coordonne la recherche et le sauvetage, mais elle le transmet pour copie à l'ensemble des navires qui sont présents sur la zone, dont les navires des ONG. Voilà comment ça se passe.
Par rapport à ça, on vous accusait de faire le jeu des passeurs. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en retourne ?
Oui, ça c'est une accusation qu'on porte contre nous dans certains milieux. Vous faites le jeu des passeurs. D'abord, je vous ai expliqué tout à l'heure que la théorie de l'appel d'air ne fonctionne pas. C'est comme si les ambulances provoquaient des accidents. C'est à peu près ça, cette logique absurde. La théorie de l'appel d'air ne fonctionne pas. C'est pas les navires de sauvetage qui provoquent les naufrages. C'est parce qu'il y a des naufrages qu'il y a des navires de sauvetage. C'est l'inverse qui se passe. On ferait le jeu des passeurs. Mais pourquoi on ferait le jeu des passeurs ? Est-ce qu'on s'est interrogé sur la logique de ce raisonnement ? que je qualifierais de pervers. Ça voudrait dire que les passeurs se préoccuperaient du sort des migrants qu'ils mettent sur des embarcations qui ne sont pas destinées à prendre la mer. Mais s'ils se préoccupaient du sort des migrants, ce n'est pas sur des embarcations comme on en voit, comme on les voit, qu'ils installeraient les migrants. Ils les mettraient sur des navires à mesure de prendre la mer. Mais là, pas du tout. Ils les mettent sur des espèces de radeaux avec des boudins pas plus épais qu'un jeu d'enfant, qui supportent un plancher qui est mal fichu. La première vague, si le moteur tombe en panne, le plancher se casse, les gens sont en mer. Dès que ces embarcations quittent le littoral, elles sont en situation de très grand danger. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils... est-ce que vous pensez que c'est vraiment leur préoccupation, le sort des migrants? Mais pas du tout. Ils s'en fichent du sort des migrants. Ce qui les préoccupe, eux, c'est l'argent qu'ils vont sortir de ce trafic-là. Et l'argent, on le sort comment? On le sort en minimisant l'investissement. C'est-à-dire qu'on va mettre les migrants sur des embarcations extrêmement fragiles, extrêmement dangereuses, qui coûtent trois fois rien. Et on va les faire payer plusieurs centaines d'euros, parfois des milliers d'euros, pour embarquer là-dessus. Donc nous, on serait les complices de ces gens. Ça voudrait dire qu'ils vendraient en quelque sorte leur voyage en disant « Mais ne vous en faites pas, vous avez des navires de sauvetage de l'autre côté. » Mais ils s'en fichent qu'il y ait ou pas des navires de sauvetage. Les trafiquants, les passeurs. Donc nous, on est complices de personne. Nous, on fait un boulot que devraient faire les États et qu'ils ne font pas. Nous, on prend nos responsabilités de citoyens.
Merci. Pouvez-vous dire comment se déroulent les sauvetages?
Oui. Un sauvetage, c'est d'abord un appel au secours, un appel de détresse qui devrait être récupéré par le destinataire de cet appel de détresse. En l'occurrence, ça devrait être l'autorité libyenne dans la zone dont on parle, dans la zone des sauvetages, des naufrages au large de la Libye. Ce qu'elle ne fait pas, l'autorité libyenne. Bon, enfin bref. Donc nous, quand on arrive sur un lieu de naufrage, avec le gros navire, on ne s'approche pas de trop près. Parce que les embarcations qui sont en difficulté sont des embarcations qui sont en situation de grande instabilité. Sur les rubber boats, vous savez, les radeaux gonflables, vous avez souvent entre 100 et 150 personnes. Donc en position de très grande instabilité, la plupart n'ont pas de gilet de sauvetage. Sur les bateaux en bois, vous avez 400 personnes, ça flotte mal, c'est en situation de déséquilibre total. Donc un remous provoqué par un bateau pourrait provoquer un naufrage total. Donc on ne s'approche pas, on met à l'eau ce qu'on appelle des ribs, c'est-à-dire des semi-rigides et des embarcations semi-rigides. On va employer un terme qui n'est pas approprié, des Zodiacs, hein, on va dire ça comme ça. Zodiac, c'est une marque, donc... Ces trois canaux de sauvetage vont se diriger vers l'embarcation. Sur ces canaux, on a ce qu'on appelle un médiateur qui va interpeller dans les langues les plus usitées dans cette partie du monde, des langues africaines, en anglais, en arabe, en français aussi, qui va interpeller les naufragés, qui va leur dire ce qui nous sommes des sauveteurs, on n'est pas là pour les récupérer et les ramener en Libye. On va leur demander de se calmer, on va leur dire qu'on va procéder à leur sauvetage. On va les équiper de gilets, parce que la plupart du temps, ils n'en ont pas. On va déployer autour de l'embarcation des boudins gonflables, des petits dinghies, des petits canots, au cas où les gens tomberaient à la mer. Bon, ils pourraient ainsi s'accrocher et se sauver. Donc on sécurise l'embarcation. Et ensuite, on procède à l'évacuation par groupe d'une dizaine de personnes. Et on fait des rotations avec nos canots vers le navire-mer, vers l'océan Viking. Et une fois que le dernier naufragé est à bord et sécurisé à bord de l'océan Viking, à ce moment-là, on coule des naufragés, on la coule de façon à ce qu'elle ne soit pas récupérée par les passeurs. Et on attend qu'on nous désigne un port sûr de destination, que l'autorité donc coordinatrice nous désigne un port sûr de destination qui, je le répète, ne peut pas être en Libye, puisque la Libye, c'est un pays en plein chaos.
Merci. Et aujourd'hui, du coup, vous mettez en place une exposition au sein du lycée. Pouvez-vous nous parler de cette exposition?
Oui. Alors, cette exposition, c'est une très grande exposition. Vous avez beaucoup de chance de la voir. C'est 2,5 tonnes de matériel qu'on est en train de déplacer et d'installer. Ce sont des panneaux qui font 2 mètres de haut, recto-verso, sur 1,20 m de large. En fait, c'est la synthèse des travaux faits par les reporters photographes que nous embarquons depuis que nous existons. Donc depuis 2016. Vous avez là donc au total 30 photos, hein, 15 panneaux, 30 photos, de grandes signatures du reportage qui traitent de notre travail et de nos missions. Alors nos missions, il faut savoir que elles sont au nombre de trois. C'est sauver des vies en Méditerranée. Vous avez les photos du sauvetage, le repérage à bord, ce dont on parlait il y a un instant, comment on les repère, puis ensuite comment on les sauve, les rotations des canaux de sauvetage, etc. La deuxième mission, c'est protéger, la protection, la mise en protection à bord de l'océan Viking, la prise en charge, les soins, la nourriture, les vêtements, la douche, etc. La vie à bord, ce temps de translation entre le naufrage et le débarquement dans un port sûr, qui peut aller de 3 jours à plus d'une dizaine de jours, donc qui est un temps de repos, un point d'orgue dans la vie de ces migrants. Et puis ensuite, témoigner. Alors le témoignage, c'est l'ensemble de l'exposition qui témoigne, donc protéger, sauver, témoigner, la dernière mission, c'est la vocation de cette exposition qui porte témoignage. Voilà.
Et enfin, si vous avez un mot à dire à tous les jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, que leur diriez-vous ?
Une chose simple. Le sauvetage, ça ne se discute pas. On peut parler de tout, on peut avoir une opinion sur tout, sur ce que vont devenir, quand on les débarque, les naufragés, donc qui redeviennent des migrants. Quelle politique migratoire on doit mettre en place, ça relève du débat démocratique. Chacun peut avoir son opinion. Doivent-ils rester? Doivent-ils être reconduits, etc. Nous, on ne prend pas position là-dessus. Chacun a ses idées. Ça relève du débat démocratique. Mais il y a une chose qui ne se discute pas, une chose extrêmement simple, c'est le sauvetage. Quand une vie est en train de disparaître en mer, on ne se pose pas de questions. On va sauver. On saisit la main qui se tend. Et on tire le corps et on le met en protection et on sauve la vie. Ça ne se discute pas. C'est extrêmement simple. Donc, dites bien à tous ceux qui vous écoutent, à tous ceux qui s'interrogent sur ce que nous faisons, SOS Méditerranée, ce sont d'abord des sauveteurs en mer qui ne tolèrent pas que la Méditerranée soit devenue un abîme où s'engloutit tant de vies. 23 000 morts depuis 2014, c'est tout simplement inacceptable. Et c'est notre devoir de citoyenne de dire « il faut aller sauver ». Et après on discute, mais on sauve d'abord.
Ben merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une très bonne installation.
Merci beaucoup et visitez bien cette exposition et puis parlez bien de ce que nous faisons autour de nous. Merci.
Lisa et Aurélie vont à présent vous présenter les différents sports proposés par l'association sportive du lycée. Tous les sports proposés, leur intérêt et l'ambiance au sein de chaque équipe, plongés dans l'univers sportif du lycée Peytavin.
Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter les sports proposés au sein du lycée, en dehors des heures de cours obligatoires. Le lycée Émile Peytavin propose aux élèves de multiples sports à pratiquer tout au long de la semaine. On y compte par exemple les associations sportives de handball, de football, d'escalade, de raid ou de musculation. Mais aussi des options, comme la section sportive ou encore l'APPN, qui propose la pratique de sports de pleine nature, comme le canoë ou la spéléologie. Parmi les sports proposés, on retrouve des activités collectives, individuelles, pratiquées en salle ou en plein air. De quoi satisfaire tout le monde.
Ces moments sportifs permettent aux élèves de décompresser et de se faire plaisir après les journées de classe bien chargées. Par exemple, mercredi dernier, dans le cadre de l'AS, nous sommes partis à Montpellier toute la journée pour faire de l'escalade. Et nous sommes allés voir un match de handball, un match du MHB qui jouait dans le cadre de la Champions League. Une excellente ambiance et des professeurs investis font le succès du sport dans ce lycée. On vous remercie de nous avoir écoutés et je laisse la parole à Alexandre.
Merci les filles pour cette chronique sur le sport au sein du lycée Peytavin. Et merci à vous tous, auditeurs, d'avoir écouté notre émission. En attendant notre prochaine émission, vous pouvez retrouver toutes nos interviews et des exclusivités sur notre page Instagram tech.news48. Et on s'écoute tout de suite la deuxième chanson du Top 100 Monde, Adèle, Oh My God.
Much time to spare, but I'm in time for you. to break my walls, but I'm still spinning out of control from the foe. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. To explain myself to you.